quand on vit en ville, quel est notre mode de consommation du soleil ? C'est-à-dire que si on sort de chez soi le matin à 7h30 pour aller rentrer dans son bureau à 8h et en sortir à 18h, je vois pas grand intérêt d'aller mettre de la crème solaire, un SPF 50 sur son visage. En revanche, si on se dit « bah ce midi, je vais aller quand même passer 2 heures au parc pour faire un pique-nique », aux heures finalement où l'ensoleillement est le plus puissant, ça vaut le coup de se protéger.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois une scientifique experte, Marie-Odile Hecht, la fondatrice du laboratoire Cosmoya. Marie-Odile aide les marques et les porteurs de projets à concevoir leurs produits et plus particulièrement leurs cosmétiques solaires. Vous le savez certainement déjà, les filtres et les écrans ne sont pas des ingrédients comme les autres. Alors, lorsque l'on veut disséquer un sujet aussi brûlant que la protection anti-UV, Marie-Odile est la personne à écouter. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, je n'en dis pas plus. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour Chantal.
Pourrais-tu te présenter ?
Eh bien, je suis Marie-Odile Hecht, je suis la dirigeante du laboratoire Cosmoya et déjà merci de m'accueillir dans ton podcast.
Je t'en prie.
Je suis hyper fière d'être là.
C'est trop sympa, merci. Et alors, comment as-tu eu l'idée de créer donc Cosmoya, ton laboratoire ?
Alors, Cosmoya, il est parti quand même d'un constat assez simple, c'est que j'étais déjà à Bordeaux, j'ai eu des belles expériences dans différentes sociétés dans lesquelles je me suis épanouie, j'ai appris énormément de choses.
Et, en cosmétique ?
Toujours en cosmétique, côté matière première, côté produit fini, à chaque fois des postes passionnants. Et c'est vrai que je me suis retrouvée face à un nouveau challenge professionnel, je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Je suis à Bordeaux, j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai posé les questions à des confrères qui m'ont tous dit « il manque des choses, il n'y a pas assez de laboratoires pour formuler, pour répondre à toutes ces indie brands qui se montent ouais. ». Tous ceux à qui j'ai parlé à ce moment-là m'ont dit « on est sous l'eau ouais. ». Donc pragmatiquement, je me suis dit « je sais faire, j'aime faire, c'est toujours une passion ». Donc, on y va, on va monter un laboratoire. Et je me suis renseignée et je me suis lancée. Je pense
D'accord.
que c'est le plus simple.
Ouais.
Après, je l'ai monté avec des valeurs.
Oui.
Parce qu'effectivement, on n'allait pas faire n'importe quoi. Et effectivement, ce côté très... essayer avec la volonté de faire des choses efficaces, naturelles, et en essayant de faire rayonner tout l'écosystème.
Et c'était quand, cette création de labo ? C'était en quelle année ?
Alors, le laboratoire, j'ai ouvert la société en mars 2021.
D'accord.
Et après, le temps de laboratoire, il était opérationnel, je dirais, fin juin.
Ouais, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui te passionne autant dans la formulation ?
Alors, moi, ce que j'adore dans la cosmétique, c'est la patouille. Je pense que je le dis de manière un peu directe, mais on est là, on touche, on mélange. C'est un métier qui est extrêmement créatif
ouais.
et extrêmement scientifique. Et je trouve que c'est une belle manière d'apporter toujours de la nouveauté, d'apporter de la sensorialité, d'apporter du bien-être aux gens. Je dirais que c'est la manière d'aller faire du soin.
Ouais, d'accord.
d'être dans mon labo.
Ouais. Et pourquoi tu t'es spécialisée dans la formulation de produits solaires ?
Alors, je me suis spécialisée dans la formulation des produits solaires. Déjà parce que j'ai une large expérience là-dedans. Comme je le disais, j'ai travaillé dans des boîtes où finalement, j'étais tout le temps en train d'aller mesurer des SPF in vitro et de conseiller des boîtes dans le monde entier. Et quand j'ai ouvert mon laboratoire, eh bien, je me suis intéressée à comment me différencier, parce que faire juste comme les confrères ouais. et les consoeurs, c'était bien mignon, mais finalement, on est juste un plus dans le truc et c'est un peu dommage. Et ce que je sais vraiment bien faire, c'est faire des produits solaires. J'ai conseillé des boîtes pendant des années là-dessus. C'était pertinent d'aller des trucs là-dedans. Et j'ai eu une opportunité assez incroyable quand j'ai acheté du matériel pour le laboratoire. C'est que je suis tombée sur une vente aux enchères d'un appareil qui permet justement d'aller mesurer le SPF in vitro. Alors, on a, pour les béotiens, ça s'appelle un lapsphère, UV2000S, voilà, enfin bref. Et ça permet en fait de mesurer les SPF in vitro. Et il y a assez peu de gens qui savent faire ça, qui savent mesurer ça, et des laboratoires indépendants qui ont cette compétence un peu dans toute la chaîne du savoir-faire au niveau de l'ingrédient, de la composition, de la formulation, de la galénique, pour aller optimiser les SPF, tout ça. Et après, pour aller accélérer tout ça, nous, on fait un essai au laboratoire. Le lendemain, on est en train de le mesurer.
Ouais, d'accord, ok. Donc c'est super agile,
donc, c'est ok, c'est pas ok. On repasse au laboratoire, on revoit les ratios des filtres, on optimise notre galénique. Le lendemain, tac, c'est de nouveau mesuré. Alors oui, ça a des coûts supplémentaires en R&D parce que les plaques coûtent cher, parce que c'est un appareil qui demande beaucoup d'entretien, parce que etc etc. Mais mine de rien, on se retrouve pas à aller faire une formulation pendant 6 mois à faire un solaire où on va se dire ok, ben j'aurais confié ma composition en filtre solaire à un calculateur automatique qui est fourni par certains fournisseurs. Et au final, ma formule, elle n'aura pas été forcément hyper optimisée. Et mon SPF, il n'est pas à la hauteur de mes attentes. Donc, parce qu'on a un certain nombre de projets comme ça, que j'entends, où les gens, finalement, ils ont travaillé avec un laboratoire de R&D. Et quand il arrive le moment d'aller mesurer le SPF parce que leur formule, elle aura été stable, validée en galénique, etc., etc., eh bien, on n'est pas à la hauteur du SPF attendu. Parce qu'effectivement, on ne va pas se le cacher, aller mesurer des SPF in vitro ou in vivo, eh bien ça a un coût. C'est vraiment des tests qui ne sont pas donnés. Et pouvoir intégrer ça au laboratoire, chez moi, chez Cosmoya, eh bien ça permet d'accélérer le développement au final.
C'est ça.
Parce qu'on peut avoir ce côté, effectivement, comme tu le dis, très agile, où on a plusieurs éléments de la chaîne. Après, si on a envie d'aller un peu plus loin, je me suis aussi fait plaisir en achetant un cornéomètre pour mesurer l'hydratation, quoi.
Ah oui, d'accord.
Donc, mais j'ai des trucs comme ça. On a acheté aussi un colorimètre qui nous permet de dire si le produit il est beaucoup plus blanc, moins blanc, notamment quand on fait du solaire minéral, ça peut être hyper intéressant de se poser la question.
Bien sûr.
À quel point est-ce qu'on blanchit la peau quand on utilise ce produit solaire-là. On a fait des grosses études en interne justement pour aller screener les dispersions de filtres minéraux qui vont avoir un impact blanc, plus ou moins blanc, moins blanc, presque invisible sur la peau. Et en fait, ça, c'est pas
intéressant.
Rien.
C'est intéressant.
On l'a pas fait juste en se disant on le touche comme ça, machin. Non. On a fait des doses, on a fait des études on les a mesurées.
Ok.
Et en fait, on essaye d'apporter le maximum de savoir-faire scientifique pour qu'après les développements ils aillent vite.
Ouais, voilà, c'est ça.
Parce que après, on a tous envie d'aller vite. Et alors bon, je suis désolée, mais déjà développer un produit solaire, c'est plus long.
C'est plus long.
Alors si en plus on perd du temps parce qu'on fait un coup d'épée dans l'eau avec le SPF qui tombe à 49 alors qu'on veut un 50, ça pique un peu.
C'est clair. Et alors, quels filtres et écrans sont autorisés aujourd'hui en Europe?
Alors, c'est une question qui est un peu délicate, parce qu'il y a ce que dit la loi et ce qui se passe dans la réalité. Parce que, concrètement, si on regarde le règlement, finalement, il y en a une petite trentaine. Il y en a une petite trentaine. Sur cette petite trentaine, il y en a quand même 8 qui sont en train d'être évalués par les autorités, le SCCS, machin. Ils se posent
des
questions.
Parce qu'il y a des doutes.
Il y a des doutes sur les perturbateurs endocriniens, les doses maximales, les CMR. Donc bon, on n'est pas à l'aise avec un certain nombre d'entre eux. Donc finalement, il y a énormément dans les formulations qu'on met au point ce principe de précaution.
Oui, voilà.
Où on va dire, bon, si on n'est pas sûr, on va éviter de les utiliser dans nos formules parce que finalement, ça fait de la mauvaise presse. Et là, je ne parle pas des applications telles que Yuka, tout
bien
ça.
Sûr.
Donc déjà, hop, on s'en enlève une petite dizaine.
Okay.
Après, il y a ceux qui existent, mais bon, qui ne sont pas très efficaces, qui sont un peu compliqués à formuler. Finalement, ceux-là, on les enlève aussi. Au final, quand on regarde notre liste, on en a moins d'une dizaine sous la main.
Ah oui, de 30 à moins d'une dizaine, en fait du déchet.
On en est à moins d'une dizaine de filtres, et après c'est vraiment selon le positionnement qu'on a envie de faire, mais ces filtres-là, ils sont pas simples à formuler. Parce que la plupart, ils sont sous forme de poudre, ils sont pas si simples à solubiliser, ils ont tendance à recristalliser, ça c'est pour les filtres que je vais dire de synthèse, ou organiques. Et là, on aime bien jouer sur les mots parce que organique ne veut pas dire bio.
Voilà, c'est ça.
Et après, on a aussi les filtres qu'on va appeler minéraux. Là, c'est simple, il y en a deux, c'est titane et zinc, qui sont tous les deux aussi, qui sont les seuls qu'on peut utiliser du moment qu'on veut faire des formulations naturelles. Organique Cosmos, c'est là. C'est pour ça que je parle pas souvent du mot organique quand je parle des filtres solaires, Mais au final, ces deux filtres-là, bah, y a cette problématique du nano. Le fameux nano qui fait peur. Qui fait peur parce que on l'imagine pénétrer dans la peau, il y a des études, que le produit il est blanc, donc en fait on essaye de concilier un peu l'inconciliable, à se dire bah, je veux un produit qui soit pas blanc sur la peau et je veux un produit en fait qui soit totalement naturel et qu'on voit pas quoi.
Ouais, donc un peu la quadrature du cercle. Hein.
C'est un petit peu compliqué. Mmh. Donc en fait on est quand même assez assez limité dans notre aire de jeu.
Alors, sur quels critères un formulateur choisit-il un filtre plutôt qu'un autre ?
Alors, ben, déjà, on va aller réfléchir dans quel pays on va aller vendre son produit. Parce que, très clairement, là, moi j'ai parlé de la petite dizaine qu'on a en Europe. Mais en fait, cette petite dizaine, on est très vite obligé d'en sortir si on a envie d'aller formuler dans d'autres pays.
Ouais.
Puisque tous ces filtres qu'on appelle dernière génération, les filtres modernes, et bien finalement, ces filtres-là sont assez peu autorisés dans d'autres pays, ou alors dans des limitations qui sont quand même plus restreintes que celles que nous, on a en France.
Okay.
Donc, déjà, premier truc à faire, se dire dans quel pays je vais. Par exemple, un produit blanc titane-zinc, on va pas aller le vendre en Asie, quoi. En fait, là, clairement, c'est pas des choses qui vont l'intéresser parce que c'est des textures qui sont blanches. Ils veulent des produits blanchissants, mais pas forcément blancs.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais.
Donc, il faut pas que ce soit lourd sur la peau, il faut que ça reste léger. Donc, c'est pas forcément ça qui vont leur plaire, par exemple. Mais les réglementations sont quand même assez variées. Donc, déjà, on va se fixer sur le pays. Et ensuite, alors, pour rester à l'Europe, hein, là, pour le coup, on va se poser deux questions. Est-ce qu'on veut faire du solaire minéral, bio, naturel, ou alors est-ce qu'on veut faire du solaire non minéral? Et là, le choix, il est très simple. Est-ce qu'on accepte d'avoir quelque chose qui peut être un peu blanc sur la peau? Ou est-ce qu'on veut des choses qui soient en transparence, où on peut avoir une très belle efficacité, une très belle optimisation de la répartition des filtres solaires sur la peau, parce que c'est aussi hyper important de mettre des filtres, c'est bien mignon, mais il faut qu'ils soient là.
C'est ça.
Il faut que la formule, en fait, on l'applique. Et là, pour le coup, souvent, on va se retourner vers les filtres solaires de synthèse qui vont permettre d'avoir une galénique sensorielle sur la peau.
D'accord. Et on est d'accord qu'un produit solaire rassemble plusieurs filtres dans une même formule. On peut pas se contenter d'en mettre un seul.
Alors, ben, non. Quand on parle de ça, de la formulation dans sa globalité, moi j'aime bien faire le parallèle avec l'alimentation. Parce qu'on ne va pas manger qu'un seul aliment dans sa journée. Et moi je trouve que c'est un petit peu le même parallèle quand je fais un produit cosmétique. En fait, je varie les ingrédients. Ça va un petit peu à l'encontre des formules minimalistes. Mais justement, moi je trouve que c'est un bel équilibre en fait, à aller mettre en place pour avoir une formule efficace.
Ouais.
Parce qu'il y a des filtres qui vont avoir... chaque filtre va avoir ce qu'on appelle une courbe d'absorption.
Ouais,
c'est un petit peu scientifique comme terme, mais en gros, voilà, on a les UV, on a les UVA, les UVB, les UVC. Quand on parle d'un produit solaire, on parle des UVA, des UVB. Et donc, on veut que ça absorbe en UVB et en UVA. Et donc, en fait, on va avoir des filtres qui vont être très forts pour aller absorber en UVB. D'autres qui vont être hyper forts pour aller absorber en UVA, d'autres qui vont être pas hyper forts, mais un peu partout. Et en fait, ils vont un peu agir en synergie.
Okay.
Donc en fait, on va aller mettre un petit peu, je dirais, au minimum 3 filtres dans un même produit pour obtenir un équilibre. Mais c'est vraiment... Là, je parle pour les filtres de synthèse. Bon, pour les filtres minéraux, c'est simple, il y en a 2. Donc bon, voilà.
Ouais.
Donc,
en général, on n'en met qu'un, quoi.
Bah, on en met 2 parce que c'est quand même plus. Ils agissent en synergie quand même.
Hein. Ouais, d'accord, ok.
Ils agissent en synergie quand même. Et effectivement, puisqu'il n'y a que 2 cordes à l'arc pour travailler en minéral, eh bien, finalement, c'est quand même un petit peu plus compliqué d'obtenir des SPF très élevés.
Ouais, voilà.
C'est possible, mais ça reste compliqué.
Ouais. Et alors, les filtres de synthèse sont particulièrement sujets à controverse. On les suspecte d'être, pour certains, cancérigènes, d'avoir un impact écologique, notamment sur les fonds marins. Ces polémiques sont-elles justifiées, selon toi ?
Alors, moi, je suis toujours impressionnée par l'industrie cosmétique parce que je trouve que globalement, on est assez précurseur dans la protection du consommateur. Contrairement à l'industrie médicale ou à l'industrie pharmaceutique, où on a ce ratio bénéfice-risque, oui, et où on se dit, finalement, ce médicament-là, on va quand même l'utiliser malgré la découverte des effets secondaires qu'on aura trouvé dessus. On va quand même positionner ce produit pharma et on va le vendre. En cosmétique, le raisonnement est un peu différent. On va simplement se dire, moi, j'ai ce truc-là, il marche, et il peut marcher depuis très longtemps. Hein,
ouais.
Mais des études ont montré, faut pas oublier Rich, hein, qui a fait faire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études complémentaires sur l'intégralité des substances qu'on vend et qui sont sur le marché. Et en fait, ils découvrent des choses. Et c'est très bien pour le consommateur. Donc, c'est très bien qu'on se pose la question. Là où je trouve que c'est inquiétant, c'est quand on en arrive à la psychose.
Ouais, c'est ça.
Il faut quand même se dire que les doses qui sont réglementées aujourd'hui, elles sont 100 fois, 10 fois, enfin, elles sont très nettement inférieures à la dose qui serait potentiellement dangereuse pour un consommateur, acceptable par un toxicologue, en fait.
Ouais, ok.
Donc, je suis pas toxicologue, je vais pas rentrer dans ces débats-là.
Non, bien sûr.
Mais pour le coup, en fait, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on s'en inquiète. Mais c'est vrai que ça nous réduit notre palette, et ça c'est un peu triste.
Ça complique les choses, ça complique encore plus
c'est
les choses.
C'est ça qui rend les trucs délicats, effectivement, ouais. Parce que la réglementation, elle évolue sans cesse, il y a des nouveaux pop-up là, à chaque fois, celui-là tu pouvais l'utiliser à temps, maintenant c'est plus que ça, bon, c'est pas si simple.
Ouais, on réduit les taux d'utilisation,
C'est ça, toujours dans cette idée de la sécurité, donc on joue avec ce qu'on peut.
Et alors, je vais ajouter un peu de polémique, c'est celle sur l'utilisation quotidienne de protection solaire. Est-ce que selon toi, c'est aussi nécessaire de se protéger en automne et en hiver qu'en été, quoi, quand on est en maillot sur la plage ?
Alors, évidemment, quand on va à la plage en maillot, c'est très naturel d'aller se protéger contre les effets du soleil. Le débat n'existe même pas. Et c'est vrai qu'on se pose un petit peu plus la question en se disant, moi, dans ma vie quotidienne, me mettre un petit peu de crème solaire pour aller lutter contre le vieillissement cutané, c'est pas complètement aberrant qu'on se pose la question.
Bien sûr.
Mais pragmatiquement, quand on vit en ville, quel est notre mode de consommation du soleil ? C'est-à-dire que si on sort de chez soi le matin à 7h30 pour aller rentrer dans son bureau à 8h et en sortir à 18h, je vois pas grand intérêt d'aller mettre de la crème solaire, un SPF 50 sur son visage.
Mais d'accord.
En revanche, si on se dit, ce midi, je vais aller quand même passer 2 heures au parc pour faire un pique-nique, aux heures finalement où l'ensoleillement est le plus puissant, ça vaut le coup de se protéger.
Oui, s'il y a du soleil.
S'il y a du soleil. Mais après tout, la crème qu'on aura mis le matin pour se nous protéger toute la journée, elle aura déjà été là sur notre truffe toute la matinée.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment pertinent de se dire je la mets le matin à 8h ? Là, moi, je laisse ouvert, mais la question reste un peu entière, d'autant plus qu'effectivement, avec les frottements, on dit bonjour aux gens, maintenant...
La bise.
Non, mais voilà, et on se touche un peu le visage,
qu'est-ce qu'il en reste
4 heures plus tard.
Ouais,
moi, je resuggérerais d'aller tout simplement se remettre de la crème solaire avant de sortir pour aller faire son pique-nique, quand on a décidé de faire un pique-nique. Et finalement, ça délégitime peut-être un petit peu ces produits solaires quotidiens. Toutefois, à la limite, pour celui qui n'a pas la capacité de le mettre, pourquoi pas ? Mais là, je suis pas vendeuse de produits finis, donc c'est des positionnements différents.
Sachant qu'en plus, j'imagine que dans ces formules, la protection UVB est plus importante que la protection UVA, qui est quand même celle... Enfin, les UVA étant ceux qui font vieillir,
Mais
qui pénètre le plus profondément dans la peau.
Mais
en tout cas,
c'est ça. C'est-à-dire qu'on va aller protéger contre un coup de soleil.
Voilà.
Et au final, c'est contre le vieillissement qu'on veut protéger. La réglementation aujourd'hui, elle nous dit quelque chose de très simple. Elle nous dit quand tu vends un produit solaire, il faut que, avant c'était pas le cas, il faut que ton UVA soit égal à au minimum un tiers de ta protection UVB.
Voilà.
Alors quand on achète un SPF 50+, ça veut dire que le SPF calculé, théorique, celui qu'on a fait mesurer in vivo, il est supérieur à 60.
Ouais, ok.
Après, c'est des aberrations, on allait plus loin, donc on a arrêté. C'est ça, fut un temps, on pouvait dire, du coup, écran total.
J'en ai vu des 100.
C'était il y a loin.
C'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps. Et en fait, bon, bah, si t'es à 60, bah, ça veut dire que ton UVA, il est à 20.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et donc, pragmatiquement, quand on applique un produit solaire sur le visage, si on vous dit la vraie dose qu'il faudrait qu'on mette, pour obtenir un vrai SPF 60 sur le visage, il faudrait se mettre l'équivalent de... Alors on prend un tube de crème, imaginez un tube de crème, vous allez l'appliquer, le petit tube de crème, sur vos deux doigts, l'index et le majeur.
Okay.
Et ça, il faut l'appliquer intégralement juste sur le visage et le cou. Ça fait
beaucoup,
énormément de crème, finalement, à aller appliquer pour être, je dirais, à ce qui a été fait dans la réalité, pour aller mesurer un SPF 50+. Donc finalement, un 20 en UVA. On est d'accord, un 20 en UVA. Minimum 20 en UVA. La réalité fait qu'on va aller se mettre une petite noisette de crème qui va nous faire tout le visage parce que finalement, le produit s'étale bien.
Oui, ça suffit. Voilà.
Donc on n'est pas, du tout à 20 à ce moment-là.
Ben non, on est
si on est à 6, à 4.
Ouais.
Mais finalement, SPF 4, ça peut être suffisant. Parce que si on se dit que on va aller prendre j'ai pas envie de dire un coup de soleil, parce que quand on est en pique-nique comme ça, qui fait juste un peu beau, ça peut être effectivement plutôt du vieillissement cutané. Effectivement, c'est l'UVA qui va être gênant. Mais l'impact, si l'impact il est censé arriver au bout d'une demi-heure, il arrivera au bout de deux heures. Finalement, on se sera tout à fait protégé suffisamment.
Ouais, d'accord. Okay.
Mais c'est vrai que si l'impact il est au bout de 5 minutes, un UVA à 20 est suffisant peut-être pas.
Peut-être pas. Peut-être pas. Alors, autre sujet qui prête à polémique également. L'autre fois, je me suis interrogée dans un toast sur l'efficacité réelle des filtres sur les peaux noires. Parce qu'il me semble qu'on n'a jamais vraiment étudié la question de l'efficacité des filtres sur les peaux noires. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu de recherches poussées sur ce sujet.
Alors, moi, j'en ai pas trouvé non plus.
Ouais.
Et pour autant, c'est vraiment quelque chose dont les personnes qui me contactent manifestent le besoin.
Ouais.
Parce que, on en revient à la question précédente, en fait, c'est pas parce qu'on a la peau foncée, déjà qu'on n'est pas sujet au coup de soleil. Hein,
ouais, ça c'est complètement faux.
Voilà, hein, moi, j'ai vu une Kenyane qui habite à La Défense repartir dans son pays et se prendre un coup de soleil alors qu'elle a la peau extrêmement foncée, mais qu'elle n'est pas habituée quotidien à avoir des doses d'UV pour aller entraîner un peu son corps à se protéger, finalement. Donc, son corps a beau être foncé, il ne sait pas faire.
Voilà.
Il ne sait plus faire, il a oublié. Donc, quand même, protection UV-CV, ce n'est pas non plus idiot. Et pour le coup, le vieillissement cutané, lui, il est là.
Ouais.
Donc en fait, l'UVA dont on parlait, il n'est pas complètement... il est vraiment important de ne pas le négliger aussi dans ces produits-là. Et parce
pour l'instant, il n'y a pas de formulation. Enfin, moi, je ne connais pas de produits spécifiques, en tout cas en Europe, pour les peaux noires.
Alors, je ne suis pas experte marché, mais je n'en ai pas vu non plus.
Voilà. Je vois des choses aux États-Unis, mais bon.
Et c'est assez.
Les filtres aux États-Unis.
Eh ben.
On en parle.
C'est effectivement là où c'est un petit peu. Ils ont un côté très protectionniste, donc ils ont des filtres solaires qui sont quand même relativement à l'ancienne.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est typiquement tous ceux qui sont sur la liste du SCCS pour être plus réduits, pas bien, voilà, et
qui
vraiment
sont interdits
pas top.
En Europe.
Et globalement pas top. Donc. On est un peu limité.
C'est ça.
On est un petit peu limité. Mais c'est vrai que ça serait c'est des pistes assez intéressantes parce que les produits solaires pour les peaux foncées, finalement, peuvent être des voies de développement hyper intéressantes
bien sûr.
Où finalement, on n'aurait peut-être pas forcément besoin d'aller autant pousser l'UVB, mais faire
plus
un
l'UVA.
UVA autant qu'un UVB.
Ouais.
Et essayer de pousser en UVA. Alors, c'est des challenges, hein, parce que y a un petit peu moins de filtres UVA que de filtres UVB. Mais c'est des pistes qui sont hyper intéressantes à aller chercher.
Bon, avis aux futurs entrepreneurs qui veulent créer une marque de cosmétiques un peu innovante. Alors, tu t'intéresses quand même à d'autre chose que les filtres solaires, hein, on est d'accord. Voilà, formulation naturelle, tu l'as dit, produits sans eau, upcycling. D'ailleurs, tu as présenté récemment 3D Cosmic. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors oui, c'est vrai que moi au laboratoire, en fait, dès le début, j'ai voulu aller chercher des choses un peu différentes. Moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire juste un laboratoire pour aller faire... alors c'est hyper sympa et j'aime beaucoup développer simplement sur l'idée de la personne et de l'entrepreneur, de la marque qui me contacte. Je trouve ça toujours passionnant et j'adore m'investir dans les projets. Mais j'avais envie d'aller proposer des choses différentes. Ouais. Et donc, j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi et j'ai eu une chance assez incroyable dans la pépinière d'entreprise dans laquelle je suis à côté de Bordeaux. C'est justement de pouvoir échanger avec d'autres entreprises qui étaient dans des univers, mais à l'opposé de la cosmétique.
Ouais, d'accord. Genre quoi, industrie, je sais pas, bah, alimentaire.
Genre pharma, genre alimentaire, ouais, genre okay. Des biotech. Ouais. Et en fait, j'ai fait une rencontre assez incroyable avec quelqu'un qui avait une technologie assez passionnante. Et donc, ça nous a permis de faire... Et on a travaillé ensemble là depuis... ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble là-dessus. Ouais. Pour aller transposer sa technologie spécifique à la cosmétique.
C'est une technologie qui s'applique à quoi à l'origine ?
Alors aujourd'hui, c'est une technologie qui existe en alimentaire.
OK.
Et même en alimentaire, elle est extrêmement peu développée.
OK, d'accord.
Donc... Ça, c'est sa partie. Mais c'est vrai que ça permet d'aller créer... on est dans cette veine de la cosmétique solide et de la cosmétique à usage unique, à usage extemporané. Et en fait, cette cosmétique-là, aujourd'hui, c'est une cosmétique qui a un potentiel de développement assez incroyable dans la réduction des packagings, ouais. Dans la réduction de l'eau, notamment. Et malheureusement, ce qui lui dessert bien souvent à cette industrie-là de la cosmétique waterless, c'est l'ergonomie du produit.
Ouais.
Parce que les temps de quand on parle de poudre compressée, la problématique, c'est que le temps de resolubilisation est relativement long. Mmh. Tout simplement parce que le produit, lui, il aura été compressé extrêmement fort pour assurer la solidité.
Ouais, d'accord.
Et c'est normal. Hein.
Mais oui, c'est normal.
C'est tout à fait normal. Alors, il y a des techniques qui existent pour faciliter la resolubilisation. Mmh. Malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu compliqué.
C'est ça.
Et de l'autre côté, quand on est sur des poudres libres, on a un petit peu tendance à avoir parfois certaines difficultés à le doser. Le produit peut prendre l'humidité et devenir un peu dur à l'intérieur du packaging. Ouais. Ça ne réduit pas forcément la quantité de packaging à la fin de l'histoire. Et on peut s'en mettre partout.
Ouais, c'est ça.
C'est un petit peu plus compliqué à utiliser en termes d'ergonomie.
C'est sûr. Et
donc là, on est allé quelque part à l'intermédiaire.
Okay.
Où, pour le coup, effectivement, on reste dans cette réduction de packaging. On reste dans un produit qui est à usage unique. Donc sans conservateur, sans eau. J'ai travaillé je me suis mis cette petite contrainte de ne le travailler que en 100% nat.
Ah oui, d'accord.
Donc il y a rien de dérivé de synthèse
de pétrochimie,
à l'intérieur.
Ouais.
J'ai pas d'accord. De pétrochimie, j'ai pas de silicone, j'ai pas d'acrylate, j'ai pas de conservateur, j'ai pas de truc de synthèse dans la globalité. Alors j'avais quand même pas mal de poudre.
Ouais, ouais.
Là je me suis un peu intéressée tout ce qui était upcyclé, les mares de trucs, les bijoux. Enfin j'ai eu pas mal de poudre de plantes. J'ai testé plein de trucs. On a testé des centaines de poudres différentes.
Okay.
Et on a monté comme ça un mélange de poudre qu'on a breveté là-dessus. Hein. On a un brevet là qui est déposé. Et en fait qui a été donc utilisé avec cette technologie assez spécifique, et en fait ça fait un objet.
Ouais.
C'est-à-dire que la cosmétique devient lui-même l'objet. Donc on peut imaginer, donc là ce qu'on a présenté au salon, c'est un trèfle en fait,
trèfle
à quatre feuilles, et en fait on va aller prendre une petite feuille du trèfle, on va la mettre dans le creux de la main, on va mettre quelques gouttes d'eau. La dissolution, elle est immédiate.
Ok.
Quelle que soit la salinité de l'eau, quelle que soit la température de l'eau, que ce soit froid, que ce soit chaud, que ce soit de l'eau calcaire, de l'eau pas calcaire, ça se solubilise immédiatement.
Ah ouais.
On a un petit truc qui a une petite texture tout de suite sous la main. J'ai pas prétention d'aller créer une crème, en tout cas pas tout de suite là-dessus,
mais
on a quand même un bon sérum, et ça permet avec le petit pétale de l'étaler sur tout le visage et le cou.
Ouais, pas mal.
Et donc là, on a un objet qui est beau, qui est design, on peut faire la forme qu'on veut.
Ah ouais.
On peut lui mettre la couleur qu'on veut, on peut mettre le parfum qu'on veut. Étant donné qu'il n'y a pas d'eau, niveau préservation d'actifs, c'est optimal.
C'est optimal.
Si on veut, on peut aussi mettre des coques externes avec de la poudre libre à l'intérieur. Mais il y a énormément de choses qui sont possibles dans cette technologie pour aller mettre des actifs et dans quantité extrêmement précise à l'intérieur du produit, qui va être resolubilisé directement dans la main et on met ça sur le visage dans la foulée.
D'accord. Et c'est pas un produit d'hygiène, je veux dire, c'est pas un savon, c'est pas un démaquillant, ça peut être un sérum.
Ça peut être un sérum, ça peut être un lait, ça peut être une crème, ça peut être. Alors, une crème, on va pas aller sur quelque chose d'épais, parce que c'est pas trop compatible avec la techno au bout d'un moment.
Ce sera plutôt un fluide, une émulsion.
Ouais, on peut quand même faire des choses assez sympas.
Ouais.
Et le potentiel est assez. Le potentiel texture est quand même assez, assez incroyable derrière. Le potentiel objet, on peut faire le design qu'on veut, la couleur qu'on veut, la forme qu'on veut, petit, gros. On peut imaginer, je ne sais pas moi, une grappe de raisin où on prend son petit raisin le matin.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est assez, c'est juste fou.
Ah, c'est dingue.
Donc,
génial.
Donc voilà, c'est 3D cosmique.
3D cosmique. Ben, écoute, on va s'en souvenir. Je pense qu'on en entendra parler ou en tout cas qu'on le verra quelque part prochainement. J'espère pour toi en tout cas.
Eh bien, j'espère aussi.
Et comment on peut te contacter si on veut travailler avec toi ?
Alors, Cosmonia, j'essaye d'être un petit peu présente sur les réseaux. Donc, on va me trouver sur déjà le site internet de Cosmonia, www.cosmonia.fr, tout simplement. On va me trouver aussi sur LinkedIn.
Oui.
Sur Instagram, en LinkedIn, j'essaye de communiquer un petit peu. J'essaye
de
me tenir
à
ma communication du jeudi. avec mes petits coups de gueule, mes petits états d'âme, machin. Et après, on va me trouver. Je suis membre de la SFC, je suis membre de la Cosmetic Valley, je suis membre de Cosmed.
Tu es partout.
Voilà.
Bon, en tout cas,
je fais partie de cet univers-là.
Oui,
quoi, on peut me trouver facilement.
Ouais, et puis, t'as donné le site, donc on sait où te joindre. Merci beaucoup, Marie-Odile.
J'ai été ravie
de te recevoir.
Merci, Chantal.
C'est déjà terminé, le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Je profite de ce moment pour vous encourager à soutenir Beauty Toaster via Patreon. Ça ne vous coûtera que 3,50€ par mois, mais ce sera énorme pour votre podcast préféré. Retrouvez le lien direct vers ma page Patreon dans les notes de cet épisode et rendez-vous vendredi prochain, première heure, dans vos écouteurs.